PNL et thérapie comportementale, nouvelles applications pour les kinésithérapeutes. Petit 1, programmation neurolinguistique. Depuis sa création en 1970 par John Grinder et Richard Bandler, la PNL a beaucoup fait parler d'elle. Elle a fait l'objet de nombreuses études qui ont invalidé certaines de ses applications, mais a surtout permis d'approfondir notre compréhension du système cognitif et de son implication dans notre représentation du monde et nos interactions sociales. Elle a ainsi permis de modéliser et de fournir une première grille d'analyse sur les comportements humains, la transmission de l'information et les apprentissages. Depuis, de nombreuses disciplines se sont développées à partir de ce domaine de recherche, et à mesure que nos connaissances en matière de fonctionnement du cerveau humain se sont étoffées, les applications se sont diversifiées et ont progressivement envahi notre quotidien dans différents secteurs d'activité. Par exemple, les entretiens d'embauche et les ressources humaines, la politique, la communication publicitaire et l'étude des comportements d'achat, le traitement de sources humaines dans le renseignement, l'interrogatoire de police et la négociation, mais plus particulièrement dans le secteur du bien-être et les thérapies brèves, le MDR, l'hypnose, les techniques d'optimisation du potentiel, entre autres. Aujourd'hui, la PNL a cédé la place à de nouvelles méthodes basées sur des études plus représentatives en matière d'échantillonnage et donc plus pertinentes à grande échelle. Et la compréhension plus fine du fonctionnement de notre système cognitif apporte de nouvelles applications dans le domaine de la santé. Elle nous fournit également des éléments de compréhension sur l'impact réel des thérapies manuelles à travers le prisme de la relation soignant-soigné. Petit 2, vous soignez autant parce que vous êtes que ce que vous faites. Nous disposons désormais d'un grand nombre d'études et surtout de méta-analyses dans le domaine des thérapies manuelles. Et bien qu'il existe une très grande variété de techniques et de méthodes plus ou moins invasives, aucune ne parvient à se démarquer de manière significative dans le cadre de la prise en charge des troubles musculo-squelettiques. Certaines études s'appuyant sur des protocoles stricts reproduisant les mêmes techniques sur de grands échantillons de patients présentant les mêmes symptômes, tendent même à prouver que les traitements manuels n'empêchent pas plus les récidives et le passage vers la chronicité que quelques conseils d'hygiène de base. Et pourtant, l'effet de l'ostéopathie et de la kinésithérapie à court et moyen terme n'est plus à prouver, et nous le constatons quotidiennement dans nos cabinets, ne serait-ce qu'en matière de réduction de la consommation de médicaments, par exemple. Alors comment expliquer ces contradictions entre les études et le terrain? La principale raison, qui nous semble évidente, mais qui n'est documentée que depuis peu, est la relation soignant-soigné et, au-delà de ça, le comportement et le traitement que le praticien choisit d'adopter en fonction de son patient. Et c'est ici que les thérapies comportementales et la kinésithérapie se rencontrent pour former un tout pertinent et opérationnel. Même si aujourd'hui, la profession opère davantage par bon sens et par instinct dans ce domaine. C'est surtout l'expérience qui nous amène à affiner notre choix de technique et de protocole en fonction du type de patient. Mais nous sommes incapables d'expliquer concrètement pourquoi tel traitement manuel a été efficace chez tel patient et pas chez tel autre. Finalement, beaucoup de thérapeutes manuels voient leur efficacité augmenter avec le temps, car le bouche à oreille tente à amener dans leur cabinet le même profil de patient. Ainsi, nous n'observons pas du tout la même typologie de patientèle chez un kiné structurel ou chez un kiné fasciathérapeute. Mais les deux auront approximativement le même ratio de réussite et de satisfaction sur leur patientèle. Petit 3, la thérapie manuelle cognitive. Si certains thérapeutes font intelligemment le choix d'exercer exclusivement autour d'une technique de soins qu'ils maîtrisent, notre métier repose avant tout sur notre capacité à utiliser notre boîte à outils en fonction de l'âge et des symptômes de notre patient. Mais aujourd'hui, certaines approches, comme la thérapie manuelle cognitive, tentent à y associer un nouveau critère de sélection, le profil cognitif du patient. Vous savez sûrement, pour l'avoir vécu, que certains patients sont plus réceptifs que d'autres au protocole de rééducation que vous mettez en place dans vos cabinets. Ainsi, vous avez probablement remarqué que vos patients sportifs récupèrent souvent mieux et plus rapidement de traumatismes légers tels que les entorses, car ils sont fréquemment plus investis dans leur traitement. Mais savez-vous qu'un patient présentant un profil promoteur, par exemple, se surpassera bien plus si vous le faites travailler sur un plateau technique, avec d'autres patients, par son goût pour le défi et l'exhibition. Alors qu'un patient présentant un profil plutôt rêveur sera complètement inhibé et déconcentré dans le même environnement, car trop riche en stimulation et le détournant de sa tâche principale. Savez-vous qu'un patient au profil dit empathique sera davantage convaincu par votre traitement et par définition plus soulagé si vous passez plus de temps avec les mains sur lui, comme le propose la fasciathérapie par exemple. Alors qu'un patient présentant un profil dit analytique sera bien plus convaincu par une procédure mécanique associant une anamnèse bien menée, une ou deux techniques avec un fort référent objectif, tel que les craquements par exemple, et une posture de soignant synthétique et objective. Inversez ces deux traitements et appliquez-les au mauvais profil de patient et vous serez accablé du résultat. Bon nombre de patients au profil dit persévérant n'ont pas été convaincus par leur traitement et sont partis même avant la fin des soins car ils n'avaient pas confiance en leurs soignants, juste parce qu'ils ont besoin qu'on leur montre l'exemple pour être convaincus, que ce soit en réalisant l'exercice devant eux ou en affichant un diplôme attestant de notre compétence dans ce domaine, ou encore un poster de l'équipe de sport ou du sportif de haut niveau que nous suivons parallèlement, s'il s'agit d'un sportif. Il sera fort utile de savoir détecter les patients qui, par névrose, anxieuse, histrionique, narcissique ou autre, ou par simple jeu de dupe, choisissent de tisser une relation de dépendance toxique avec vous, en mentant sur leurs symptômes et leur amélioration, ou sur le motif qui les a fait récidiver, voire sur leur besoin de prolonger un arrêt de travail en vous faisant tourner en bourrique. Autre exemple, en matière de conseils cette fois-ci. Un patient au profil dit rebelle, à qui vous donnez les préconisations sur la manière de se baisser pour éviter le lumbago, en vous appuyant sur des études qui prouvent que cela diminue de 80% le risque de récidive, par exemple, ne l'appliquera probablement pas, car il verra dans ses chiffres, par son aspiration anticonformiste, que cette méthode est inefficace dans 20% des cas, ce qui prouve pour lui qu'elle n'est pas assez fiable. Alors que le même conseil, prodigué à un patient au profil dit analytique, suffira par la force du ratio 80-20 à obtenir son adhésion pleine et pérenne, à tel point qu'il transmettra même ce message à d'autres autour de lui. Enfin, un patient au profil linguistique dit changement sera bien mieux soulagé par la dernière technique innovante que vous avez apprise en formation. Alors que les patients au profil linguistique plutôt tradition exigeront que vous leur fassiez exactement la même chose que la dernière fois qu'ils sont venus vous voir ou que le précédent thérapeute qu'ils ont consulté, car ça avait bien marché et qu'il n'y a pas de raison que ça change pour eux. Petit 4, profil n'est pas personnalité. Attention, le fait d'identifier un profil comportemental dans le contexte de la consultation ne signifie pas que vous allez connaître la personnalité de vos patients. La personnalité est, à l'instar de notre ADN, unique pour chacun de nous, complexe et évolutive en fonction de nos expériences de vie et de multiples facteurs qui justifient que seul un psychiatre ou un psychologue soit en mesure de s'en approcher. En revanche, les comportements sont des attitudes et des modes d'interaction stéréotypés que nous adoptons dans des contextes particuliers et qui diffèrent d'un contexte à l'autre. Vous n'adoptez donc pas le même comportement avec votre conjoint et vos amis, ou votre belle-mère, ou encore vos patients. Mais une fois identifié, celui-là permet de sélectionner le mode de communication et le type de stimulation auquel votre cerveau sera le plus réceptif. Et c'est primordial, car ça nous permet de viser un rendement optimal pour chacun de nos patients, en appliquant le précepte « un patient égale un traitement », ce qui rend notre métier si passionnant et diversifié. Petit 5. Le modèle SEPCOT. Une méthode propose de fournir les éléments essentiels à cette forme de prise en charge modernisée. Il s'agit du modèle SEPCOT, acronyme de contexte, écoute, profil, communication et traitement. Le principe est d'intégrer les dernières avancées en matière de sciences cognitives à notre prise en charge habituelle. D'abord, contexte. En intégrant dans notre cadre de consultation, que ce soit rendez-vous, salle d'attente, tenue ou autre, les facteurs contextuels qui vont influencer inconsciemment notre patient dans le sens de son propre intérêt. On parle de nudge, ou coup de pouce en français. L'écoute, en adoptant la posture de praticien la plus congruente possible avec les besoins de notre patient, tout en nous préservant de certains comportements manipulateurs ou toxiques. Tout ça en intégrant simplement quelques questions supplémentaires lors de notre anamnèse et en observant notre patient de manière plus spécialisée. Profil. Savoir identifier le profil cognitif adopté par notre patient dans le contexte du soin pour adapter notre prise en charge et notre suivi en amont. Communication. Identifier le langage d'influence le plus adapté à notre patient pour s'assurer de sa pleine adhésion dans sa prise en charge. Enfin, traitement. Sélectionner la technique de thérapie manuelle adaptée au profil du patient, à ses symptômes et son âge, et déterminer le protocole de rééducation le plus pertinent par rapport à ses facteurs de motivation et ses propres critères. Petit 6. En pratique, ça donne quoi? Prenons deux patients lombalgiques ayant le même âge et des modes de vie similaires, sur le plan professionnel et sportif, par exemple. L'un se présentant comme plutôt empathique et ayant présenté son besoin comme la volonté de ne plus avoir mal au dos, et l'autre plutôt analytique, ayant manifesté une volonté de reprendre au plus tôt la course à pied. Chez le patient au profil empathique, on choisira une prise en charge manuelle subjective, axée sur le ressenti et englobante, 2 à 3 fois par semaine, en s'orientant plutôt sur des techniques de fasciathérapie ou fonctionnelle et de massothérapie, ainsi que sur des exercices à fort impact proprioceptif, car ces patients ont des aptitudes kinesthésiques plus développées que la moyenne. Et on essaiera de prolonger les séances avec des soins de bien-être en balnéothérapie par exemple, ou des soins de physiothérapie, lui apportant du confort. Pour sa rééducation, on essaiera plutôt de l'isoler, car son côté altruiste aura tendance à le déconcentrer lorsqu'il est en groupe, pour s'intéresser aux autres. De surcroît, dans certains cas, la tendance anxieuse de ce type de profil pourra les affecter en voyant les problèmes des autres patients. Pour son suivi et les conseils, on utilisera un discours orienté sur la lutte contre ses douleurs en choisissant un langage dit éloigneur, de type éviter les récidives, limiter les douleurs, faire disparaître l'inconfort, empêcher le retour des douleurs, etc. Chez le patient au profil analytique, en revanche, on choisira une prise en charge avec des références objectifs validées par le patient, un test de mobilité avant et après la séance, et ou une technique structurelle avec un craquement s'il en fait la demande, auront un fort impact sur lui et agiront comme une preuve d'efficacité. Chez ce patient, la prise en charge manuelle ne devra pas s'étaler dans le temps, sous peine de lui donner l'impression que vous n'arrivez pas à le décoincer suffisamment et que la rééducation tourne en rond. Et elle devra reposer sur des critères pertinents, comme les principes neuroéducatifs, qui nous enseigne que l'assimilation d'un automatisme nécessite des stimulations progressivement espacées dans le temps, justifiant d'étaler les séances du patient en respectant ces principes. Un rendez-vous à 1 semaine, puis 1 à 2 semaines, puis 1 au bout d'1 mois, puis de 2 mois et de 6 mois par exemple, pour s'assurer de l'assimilation des conseils prodigués. Ce patient sera tout à fait capable d'appliquer un protocole de renforcement ou d'étirement à domicile et le respectera à la lettre si vous employez un discours plutôt ciblé autour d'objectifs. Atteindre un but, reprendre l'activité sportive à telle date, en fixant des échéances précises. Il sera en recherche d'autonomisation et sera demandeur de règles à respecter. Voilà un exemple volontairement caricatural de la différence catégorique de prise en charge de 2 patients présentant a priori le même tableau clinique selon la méthode de thérapie manuelle cognitive, CEPCOT.